Chapitre 23. Si vous voulez faire tuer quelqu'un, l'idéal est de l'envoyer en prison. Celle de ce folle Kunti avait beau n'être qu'une simple maison d'arrêt, elle n'en accueillait pas moins des auteurs de violence. Le meurtrier qui venait de passer 20 ans dans la prison de haute sécurité de l'État pouvait finir de purger sa peine dans la maison d'arrêt du comté où il avait été condamné à 18 mois pour cambriolage ou voie de fait, condamnation qui était venue s'ajouter à la peine pour homicide. Ma compagne de cellule, Erika, était peut-être incarcérée pour trafic de drogue, prostitution ou chapardage. Mais elle pouvait aussi bien l'être pour le meurtre des 3 dernières femmes qui étaient venues s'interposer entre elle et sa dose de meth. Quand je lui ai posé la question, elle s'est contentée de sourire en découvrant 2 rangées jumelles de dents noirâtres. L'unité 192 abritait 34 autres femmes exactement comme elle. En tant que simple prévenue, nous étions séparés du tout venant des détenus et rassemblés dans une unité fermée où les repas, l'infirmière et les activités venaient à nous. Mais à l'intérieur de l'unité, les possibilités de frayer ne manquaient pas et constituaient autant d'occasions de violence. Erika m'a décrit pas à pas la journée type. La matinée commençait à 7 heures du matin, avec un appel, qui permettait aux surveillants de vérifier les présences. Venait ensuite, après un petit déjeuner servi en cellule, 2 heures de promenade, pendant lesquelles nous avions le droit de quitter notre cellule et d'évoluer librement dans l'unité, de traîner dans la salle commune pour regarder la télé, de prendre une douche, dans l'une des 3 cabines qui donnaient directement dans la salle commune, ce qui permettait à tout le monde de profiter aussi de ce spectacle-là, ou de faire du vélo d'appartement grinçant, aussi grinçant que les insultes lancées par vos codétenus. La plupart des détenus, je m'en suis vite aperçu, passaient leur temps à jouer aux cartes ou à échanger des ragots autour des tables rondes en inox installées au milieu de l'unité. Une femme se joignait à une tablée, apprenait une rumeur, en colportait 2 autres, puis se rendait dans la cellule d'une voisine où elle pourrait être la première à révéler le scoop. Et les femmes tournaient comme ça, de table en table, de cellule en cellule. L'ambiance me rappelait celle d'une colonie de vacances. Tout le monde était habillé pareil, dormait sur des lits superposés et était obsédé par les garçons. À 11 heures du matin, chacune regagnait sa cellule pour un 2e appel, suivi du déjeuner. Nouvelle promenade, nouvel appel à 3 heures, dîner vers 5 heures, dernier appel à 11 heures du soir, suivi de l'extinction des feux, à ne pas confondre avec le temps calme. En prison, il n'y a pas de temps calme, encore moins dans les établissements mixtes. Les femmes, ai-je rapidement appris, occupaient les 3 étages supérieurs de la tour de la maison d'arrêt. Une femme entreprenante, ou un homme, plus probablement, s'était un jour aperçu que la tuyauterie des étages supérieurs était raccordée à celle des étages inférieurs, de sorte que, en mettant la tête dans la cuvette des toilettes en porcelaine blanche, une détenue, disons ma compagne de cellule Erika, pouvait parler à l'aveuglette avec un inconnu. Enfin, parler n'était pas vraiment le but des hommes. Il faudrait plutôt voir ça comme une version carcérale du sexto. Erika proférait des obscénités. 9 étages plus bas, un homme sans visage gémissait. Erika en remettait une couche. « Plus fort, plus vite, allez chérie, je me caresse les seins pour toi. Tu sens comme je me caresse les seins pour toi. » J'affabule. Erika n'avait pas de seins. La mette avait dissous tout ce qu'elle avait de graisse et de chair sur les os, y compris sa poitrine. Dents noires, ongles noirs, plates comme une limande. Erika aurait dû figurer dans une campagne de prévention à destination des jeunes filles. Voilà à quoi vous ressemblerez si vous prenez de la mette. Mais 9 étages en dessous, l'homme sans visage ne le savait pas. Dans sa tête, Erika était sans doute une blonde voluptueuse ou alors cette petite latino sexy qu'il avait un jour croisé à l'infirmerie. Il se branlait gaiement. Erika entamait le 2e round. Et la femme de la cellule voisine aussi, et celle d'à côté, et celle encore d'à côté. Toute. La. Nuit. Ça communique beaucoup dans une prison. La maison d'arrêt de ce folle Kunti comprenait de nombreux bâtiments. Malheureusement, seuls les hommes des étages inférieurs de la tour pouvaient échanger, via les toilettes, avec les femmes des 3 étages supérieurs. Les détenus des autres bâtiments s'en trouvaient naturellement très lésés. Mais les hommes entreprenants du bâtiment 3 s'était aperçu que nous pouvions regarder dans leurs cellules depuis nos fenêtres. Comme Erika me l'a expliqué, notre première mission le matin consistait à regarder les messages affichés aux fenêtres du bâtiment 3. Par exemple, des chaussettes, slips et t-shirts artistiquement disposés de sorte à composer une suite de chiffres et de lettres. Comme le nombre de signes qu'on pouvait former avec des chaussettes était forcément limité, un code avait été mis au point. Nous notions le message codé, qui conduisait les femmes du 192 à divers livres, où nous pouvions, pendant l'heure de bibliothèque, récupérer un message plus complet. « Suce-moi. Suce-moi, c'est bon. C'est bon. Oui, tu es trop bonne. Tu sens que je suis trop dure ?»«
De la poésie de prison »,
m'a dit Erika en soupirant. L'orthographe n'était pas son fort, m'a-t-elle avoué, mais elle faisait toujours de son mieux pour répondre et laisser un autre message. « Oui, oui, oui !» dans le même roman. Autrement dit, les détenus communiquaient d'une unité à l'autre, des messages passaient entre les femmes du quartier des prévenus et les hommes qui purgeaient leur peine. Autrement dit, il était hautement probable que toute la prison soit au courant de ma présence et qu'une détenue inexpérimentée dans une unité puisse se faire aider par un détenu plus endurci dans une autre. Je me demandais comment ça se passerait. Quand toute mon unité serait emmenée à la bibliothèque 9 étages plus bas, par exemple. Ou pendant une de nos rares sorties en salle de gym. Ou au parloir. Qui était aussi une activité collective puisqu'il se déroulait dans une grande pièce meublée d'une dizaine de tables où tout le monde se mêlait. Rien de plus facile pour une codétenue que de me coller au basque pour me planter une lame entre les côtes et disparaître. Ça arrive, les accidents, non? Surtout en prison. J'ai fait de mon mieux pour envisager toutes les possibilités. Si j'étais une prisonnière qui voulait se payer une policière, comment est-ce que je m'y prendrais? À la réflexion, je n'utiliserais peut-être pas ouvertement la violence. D'abord en tant que flic, elle saurait sûrement parer mon attaque, et puis, les rares fois où l'unité se déplaçait, pour aller en bibliothèque, à la salle de gym ou au parloir, nous étions escortés par l'équipe d'intervention, c'est-à-dire des surveillants costauds sur le qui-vive. Non, si c'était moi, j'opterais pour le poison. L'arme féminine par excellence. Facile à faire entrer en douce. Chaque détenu était autorisé à dépenser $50 par semaine en cantine. La plupart claquaient leur fric en nouilles instantanées, chaussures de tennis ou produits d'hygiène. Avec de l'aide extérieure, aucun problème pour planquer un peu de mort au rat dans le sachet d'assaisonnement des nouilles instantanées, la capsule d'une lotion pour les mains, etc. Un instant de distraction, et Erika pourrait la mélanger à mon dîner. Ou bien plus tard, dans la salle commune, Shira, une autre détenue, m'offrirait une tartine de beurre de cacahuète. Il était possible de mettre de l'arsenic dans les lotions, les produits capillaires, le dentifrice. Chaque fois que j'hydraterais ma peau, que je me laverais les cheveux, que je me brosserais les dents. Est-ce que c'était comme ça qu'on devenait folle? En se rendant compte de toutes les façons dont on pourrait mourir? Et du peu de gens qui s'en soucieraient. 20h23. Assise toute seule sur un matelas fin face à une fenêtre munie d'épais barreaux. Le soleil couché depuis longtemps. Je contemplais l'obscurité glacée de l'autre côté de la vitre, pendant que derrière moi les néons trop violents brillaient sans répit. Et j'ai souhaité, l'espace d'un instant, avoir la force de tordre ces barreaux, d'ouvrir cette haute fenêtre et 9 étages au-dessus de la bouillonnante ville de Boston, m'élancer dans la fraîcheur de la nuit de mars pour voir si je pouvais voler. Lâcher prise. Tomber dans ces ténèbres. J'ai posé ma main sur la vitre, scruté la nuit noire d'encre, et je me suis demandé si Sophie était quelque part en train de fixer cette même obscurité. Si elle sentait que j'essayais d'entrer en contact avec elle. Si elle savait que j'étais encore là. Que je l'aimais et que j'allais la retrouver. Elle était ma Sophie et j'allais la sauver, comme quand elle s'était enfermée dans le coffre. Mais d'abord, nous allions toutes les deux devoir être courageuses. Brian devait mourir. Voilà ce que m'avait dit l'homme le samedi matin dans ma cuisine. Brian avait été un très vilain garçon et il devait mourir. Mais Sophie et moi pouvions vivre. Il suffisait que je fasse ce qu'on me disait. Ils avaient Sophie. Pour la récupérer, il fallait que je me laisse accuser du meurtre de mon mari. Ils avaient même quelques petites idées sur la question. Je n'avais qu'à monter une mise en scène pour plaider la légitime défense. Certes, Brian serait mort, mais moi je m'en sortirais et Sophie, miraculeusement retrouvée, me serait rendue. Il faudrait sans doute que je démissionne de la police, mais bon, j'aurais ma fille. Debout au milieu de ma cuisine, avec l'écho des coups de feu dans les oreilles et l'odeur de la poudre et du sang dans mes narines dilatées, le marché m'avait semblé équitable. J'avais dit oui. À n'importe quoi. À tout. Je voulais juste Sophie. Je vous en prie. Avais-je supplié. Supplié. Dans ma propre maison. Ne faites pas de mal à ma fille. Je vais le faire. Mais gardez-la saine et sauve. Maintenant, bien sûr, je commençais à me rendre compte à quel point j'avais été bête. Il fallait que Brian meure et que quelqu'un d'autre se laisse accuser du meurtre. Mais s'il fallait que Brian meure, pourquoi ne pas saboter ses freins ou provoquer un accident la prochaine fois qu'il irait skier ? Il passait presque tout son temps seul. L'homme en noir aurait eu bien d'autres solutions que d'ordonner à sa femme de se laisser accuser du meurtre. Pourquoi faire une chose pareille ? Pourquoi à moi ? Sophie serait miraculeusement retrouvée ? Comment ? En train d'errer dans un grand magasin ou après s'être réveillée sur une aire d'autoroute ? La police ne manquerait pas de l'interroger et les enfants sont des témoins notoirement peu fiables. L'homme pouvait lui faire peur pour qu'elle se taise. Mais pourquoi prendre un tel risque ? D'ailleurs, une fois ma fille rendue, quelle raison aurais-je encore de garder le silence ? Je pourrais aller voir la police ? Pourquoi prendre un tel risque ? Il m'apparaissait de plus en plus qu'un individu capable d'abattre froidement un homme de 3 balles n'était pas franchement susceptible de prendre des risques inutiles. Il m'apparaissait de plus en plus qu'un individu capable d'abattre froidement un homme de 3 balles avait bien d'autres objectifs que ce qu'il voulait bien dire. Qu'avait fait Brian ? Pourquoi fallait-il qu'il meure ? Et avait-il compris dans son dernier souffle qu'il nous avait presque certainement condamnés aussi, Sophie et moi ? J'ai senti les barreaux métalliques de part et d'autre de ma main, non pas ronds comme je l'avais supposé, mais d'une forme semblable aux lames des stores verticaux. L'homme voulait me voir en prison. Ai-je alors compris ? Cet homme et ses probables commanditaires voulaient me sortir du jeu. Pour la première fois en 3 jours, j'ai souri. Parce que dans ce cas, ils allaient avoir une petite surprise. Parce que pendant les sanglantes minutes qui avaient suivi le meurtre, les oreilles encore bourdonnantes, les yeux écarquillés d'horreur, je m'étais raccrochée à une seule idée. Gagner du temps. Ralentir le cours des événements. 50 000 $ avais-je offert à l'assassin de mon mari. 50 000 $ s'il me laissait 24 heures pour mettre de l'ordre dans mes affaires. Si je devais me laisser accuser du meurtre de mon mari et finir en prison, il fallait que je m'organise pour ma fille. Voilà ce que je lui avais dit. Et sans doute qu'il ne m'avait pas cru. Sans doute qu'il s'était douté de quelque chose, mais 50 000 $, c'était une somme. Et quand je lui avais expliqué que je pouvais congeler le cadavre de Brian, il avait été admiratif. Pas choqué. Admiratif. Une femme capable de conserver le cadavre de son mari dans la neige, voilà qui était manifestement son genre. Donc l'homme de main anonyme avait accepté 50 000 $, et en échange, j'avais eu 24 heures pour prendre mes dispositions. En fin de compte, on peut faire beaucoup de choses en 24 heures. Surtout quand on est du genre à ensevelir sans émotion l'homme qui vous a juré amour, protection et fidélité. Je ne pensais pas à Brian dans cette cellule. Je n'étais pas prête, je ne pouvais pas me permettre de m'appesantir là-dessus. Alors je me suis concentrée sur le plus important. Qui tu aimes ? Le tueur à gages avait raison. La vie se résume à ça, en fin de compte. Savoir qui on aime. Sophie. Quelque part dans cette même obscurité, ma fille. 6 ans. Un visage en forme de cœur, de grands yeux bleus et un sourire édenté plus radieux que le soleil. Sophie. Brian était mort pour elle. À moi de survivre pour elle. N'importe quoi. Pour récupérer ma fille. J'arrive. Ai-je murmuré. Sois courageuse, ma belle. Sois courageuse.
Hein ?
M'a dit Erika depuis la couchette du haut où elle retournait discrètement ses cartes. Rien.
La fenêtre est incassable. Pas moyen de s'échapper par là,
a-t-elle dit en pouffant comme si elle venait de raconter une bonne blague. Je me suis retournée vers ma compagne de cellule. Erika, le téléphone de la salle commune. Je peux m'en servir pour passer un coup de fil ? Elle s'est arrêtée de jouer aux cartes.
Qui tu vas appeler ?
SOS fantôme, ai-je répondu avec le plus grand sérieux. Erika a de nouveau pouffé, et ensuite elle m'a donné le renseignement dont j'avais besoin.